Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes frères, l'évangile de ce jour, selon saint Marc, nous fait le récit de la découverte du tombeau vide de notre Seigneur par les saintes femmes au matin de Pâques. Tâchons de l'expliquer à l'aide du texte parallèle de saint Matthieu qui a été chanté cette nuit. Mais auparavant, revenons un peu en arrière. Aux premières lueurs de l'aurore, alors que le soleil commençait à darder ses premiers rayons, l'âme de notre Seigneur, quittant les limbes où il avait été donné la vision béatifique aux justes de l'Ancien Testament, s'était réunie à son corps, lui redonnant vie. Le soleil de justice était ressuscité pour toujours. Personne n'assista à la résurrection. Notre Seigneur sortit alors du tombeau sans avoir besoin d'enrouler la pierre. Il en traversa les parois aussi miraculeusement qu'il était sorti du sein de Notre-Dame à Noël sans porter atteinte à sa virginité. À partir de ce moment, les soldats, sans le savoir, ne gardaient plus qu'un tombeau vide. Après quelque temps, un grand tremblement de terre se produisit. À la passion de Jésus, la terre avait tremblé en signe de consternation. À sa résurrection, elle tremble en signe de joie. Alors, dit saint Matthieu, un ange descendit du ciel et s'approchant, il renversa la pierre et s'assit dessus. Il fallait en effet que les hommes puissent constater la réalité de la résurrection. Ne croyez pas, dit saint Jérôme, que l'ange soit venu pour ouvrir à Jésus-Christ la porte de son tombeau et l'aider à en sortir. L'ange ne vint qu'après la résurrection, au moment marqué par Jésus-Christ. Il fut envoyé pour rendre public ce qui s'était fait dans le secret et pour faire voir, en ôtant la pierre et en se tenant assis auprès du tombeau vide, que Jésus-Christ n'y était plus. Le visage de l'ange était comme l'éclair et son vêtement comme la neige, continue saint Matthieu. À cette vue, les gardes furent terrorisés et devinrent comme morts. Puis ils s'enfuirent, rapportaient aux Juifs ce dont ils avaient été les témoins. Malheureux Juifs, dont toutes les précautions pour que le disciple n'enlève pas le corps de notre Seigneur, un tombeau scellé gardé par des soldats, toutes ces précautions qui avaient rendu le tombeau inviolable n'auront servi qu'à prouver indubitablement la résurrection du Sauveur. Plus les Juifs prennent de précautions pour qu'on ne puisse enlever le corps de Jésus, écrira un auteur, plus brille avec éclat la gloire de la résurrection. L'excès même de leurs efforts devient le plus ferme appui de notre foi. La seule ressource des Juifs qui ne veulent pas se convertir sera d'interdire aux gardes de témoigner et de les payer pour qu'ils disent que les apôtres étaient venus prendre le corps pendant leur sommeil. « Tu produis des témoins qui dormaient, » dit saint Augustin à la synagogue. « Vraiment, c'est toi qui dormais. » C'est après la fuite des soldats que les saintes femmes arrivent. Notre Seigneur avait été mis au tombeau le vendredi saint au soir, avec quelque hâte quand même, car le sabbat était sur le point de commencer, pendant lequel il n'était permis ni de vendre, ni d'acheter, ni de se livrer à toutes autres occupations manuelles. Dès le sabbat terminé, donc, le dimanche matin, qui était le premier jour de la semaine, les saintes femmes s'empressèrent d'aller acheter des aromates pour continuer l'embaumement du corps de notre Seigneur. On ne peut qu'admirer ici leur piété envers le Sauveur. Les saintes femmes nous montrent en même temps combien on doit respecter le corps des défunts, spécialement le corps des chrétiens, qui sont les membres du Christ, qui ont été marqués de l'huile sainte au baptême et à la confirmation, et qui attendent une résurrection de gloire au jugement dernier. Quel contraste entre ce respect des corps demandé par l'Église et leur destruction violente aujourd'hui par l'incinération. En même temps, écrit un auteur, on voit ici que les saintes femmes n'avaient pas encore une foi pleine et entière, puisqu'elles préparent des parfums pour embaumer le corps de Jésus comme s'il devait être soumis à la corruption de la tombe. Quand elles arrivent au tombeau, le soleil est déjà levé. Elles, qui se demandaient l'une à l'autre comment elles allaient pouvoir rouler la lourde pierre, découvrent à leur grande surprise le tombeau ouvert. En y entrant, elles virent que le corps de Jésus n'y était plus, mais qu'un ange resplendissant de lumière était assis sur la droite. « Ne craignez point, leur dit-il, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez et voyez le lieu où le Seigneur avait été mis, et hâtez-vous d'aller dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Et voici qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. » Alors, elles sortirent aussitôt du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Il est important de compléter ce récit par les précisions que donne le catéchisme du Concile de Trente. Contrairement aux morts qui ont pu être ressuscités par notre Seigneur Jésus-Christ ou par des saints dans l'Église, donc par quelqu'un d'autre, c'est par lui-même, par sa propre puissance, que notre Seigneur s'est ressuscité, qu'il a réuni son âme à son propre corps, comme le dit saint Paul. S'il a été crucifié en raison de la faiblesse humaine qu'il avait assumée, c'est par sa puissance divine qu'il est revenu à la vie. Comme le dit le pape saint Léon le Grand, la nature divine et la nature humaine sont tellement unies en la personne du Sauveur que rien ne peut les séparer. Si donc son corps et son âme, eux, furent séparés par la mort le vendredi saint, l'un et l'autre demeurèrent unis à la divinité qui les réunit de nouveau au matin de Pâques. Notre Seigneur l'avait lui-même annoncé, « Personne ne m'ôte la vie, mais je la donne de moi-même, j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. » Il est encore un autre caractère unique de cette résurrection. Dans toutes les autres résurrections miraculeuses, ceux qui ont été ressuscités ont dû mourir de nouveau. Tandis que notre Seigneur, comme le dit saint Paul, est ressuscité pour ne plus jamais mourir. Avec sa résurrection, son corps est entré dans l'immortalité. C'est pourquoi la Sainte Écriture appelle notre Seigneur le premier-né d'entre les morts. C'est par lui que Notre-Dame est ressuscitée au jour de son Assomption, et c'est par lui qu'au jour du jugement dernier, tous les hommes sortiront du tombeau et ressusciteront pour ne plus mourir. Attention cependant, les justes pour entrer dans l'éternité de gloire, les damnés pour être précipités avec leur corps dans l'étang de feu de l'enfer. Donnons maintenant brièvement quelques conséquences pratiques de ce mystère. La religion chrétienne est la religion de la victoire. C'est en fait une triple victoire, d'ailleurs, que notre Seigneur a remportée le vendredi saint sur la croix et qu'il a manifestée en ressuscitant au matin de Pâques. Victoire sur le péché, victoire sur Satan, victoire sur la mort. Victoire sur le péché. L'une des vérités les plus essentielles de notre foi, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ a détruit le péché. Pas un seul péché n'échappe à cette destruction. Tous les péchés des hommes ont été placés sur les épaules de Jésus-Christ. Il les a portés sur la croix et il les a expiés par sa mort. Le péché étant le plus grand mal de l'humanité, puisqu'il conduit à l'enfer éternel, on peut dire que la délivrance du péché est le plus grand don du Christ à l'humanité. Que cette fête de Pâques donc nous donne d'abord un grand désir de laver souvent nos péchés dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ par le sacrement de pénitence. Mais si notre Seigneur est venu détruire le péché, c'est pour nous faire vivre de la vie divine en abondance. Pâques nous invite à vivre une nouvelle vie, la vie de la grâce, qui est la vie éternelle déjà commencée, puisque la grâce fait venir en nous la Sainte Trinité et nous fait déjà commencer une vie d'union, d'amitié avec Dieu. Pâques doit donc nous donner un grand désir d'union à Dieu par la prière, par l'obéissance à sa volonté, par la communion fréquente. Mais il y a un adversaire, un ennemi de cette vie divine. C'est le démon. Pâques nous rappelle alors que par sa victoire de la croix, notre Seigneur Jésus-Christ a aussi détruit la domination de Satan sur toute l'humanité. Désormais, le démon ne peut dominer que ceux qui veulent bien l'être. Il ne peut plus rien contre ceux qui s'attachent à notre Seigneur Jésus-Christ. Pour eux, le démon n'est qu'un monstre enchaîné. Il n'y a donc qu'à ne pas s'approcher. Évidemment, toute la tactique pour lui sera d'essayer de nous attirer insensiblement à lui, de nous hypnotiser en quelque sorte pour que nous nous rapprochions. C'est le processus de la tentation. Et le monde, qui est le serviteur de Satan, a perfectionné ses techniques aujourd'hui pour rendre les âmes esclaves du démon. C'est pourquoi l'Église, en bonne mère, hier soir, pour nous mettre en garde, nous a fait renouveler nos promesses du baptême, de renoncer à Satan, à toutes ses œuvres et à toutes ses séductions. La Semaine Sainte que nous venons de passer devrait nous faire comprendre qu'on ne peut être disciple de Jésus crucifié et en même temps l'un de ces chrétiens mondains, superficiels, plus attentifs à suivre les modes du monde que la croix de Jésus-Christ. Enfin, sur la croix, notre Seigneur a vaincu la mort. La mort, qui était la grande victoire du démon depuis le paradis terrestre, est maintenant pour le chrétien la suprême configuration à Jésus-Christ souffrant et mourant pour entrer dans la gloire. Par les épreuves de sa passion, notre Seigneur a traversé victorieusement toutes les épreuves que nous pouvons rencontrer sur cette terre, jusqu'à la persécution et à la mort. Maintenant qu'il nous a frayé le chemin, marchons sans crainte à sa suite. Nous sommes les seuls sur cette terre à pouvoir être en paix et confiants, quelles que soient les difficultés et les adversités. Notre seule préoccupation doit être de rester inviolablement attachés à notre Seigneur Jésus-Christ, en gardant la vraie foi et en vivant en état de grâce. Et à Fatima, Notre-Dame, notre bonne mère du ciel, nous a donné les armes de la persévérance, le rosaire et la dévotion au cœur immaculé de Marie. Alors que cette fête de Pâques ranime notre courage et nous rende plus fervents dans notre vie chrétienne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.